Amis de YouTube, nous sommes sur ma chaîne Twitch, dans la revue de presse du matin. Dans cette revue de presse, je voulais vous mettre une info, un article en avant sur la question du conflit iranien. Une tribune de Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui donne son avis, son regard sur le conflit. C'est dans Libération, c'est une tribune, hein, c'est pas écrit par un journaliste de Libé, c'est Dominique de Villepin qui prend la parole. Libé a trouvé le texte suffisamment intéressant pour le publier. Cette guerre, dit Dominique de Villepin, est illégale, illégitime, inefficace et dangereuse pour Dominique de Villepin, qui, c'est l'homme qui avait dit non, hein. Vous vous souvenez, c'est l'homme qui avait dit non à la guerre en Irak en 2003 à la tribune de l'ONU. L'intervention militaire israélo-américaine produit une multiplication des risques sécuritaires partout dans le monde. Selon lui, l'enjeu pour la France est de reconstruire sa capacité d'action et d'initiative. Dominique de Villepin, qui songe par ailleurs un peu à se présenter à la présidentielle, non? Let's go. Lisons cet article. La guerre de choix, ça c'est un concept important qui n'est pas porté que par Villepin. Cette guerre dite préventive par les États-Unis et Israël, notamment quant au risque du programme militaire nucléaire iranien, certains disent que c'est une guerre de choix. Alors, c'est une guerre dite préventive, vous avez décidé de faire cette guerre. Donc ce concept est très important. Cette guerre de choix déclenchée par les États-Unis et Israël en Iran fait partie des seuils successifs franchis dans les dernières années qui nous rapprochent d'un monde brutal d'affrontements impériaux. Nous entrons dans une phase de guerre régionale au sens plein, et cette guerre prend déjà la forme d'une guerre impériale, parce qu'elle est conduite sous l'idée qu'un ordre peut être imposé par la force, corrigé en permanence par la force, maintenu par la force. Elle franchit plusieurs droits, plusieurs points de non-retour, celui du droit international, celui de la diplomatie, en rompant des négociations en cours sur la question du nucléaire que j'évoquais, celui de l'élimination extrajudiciaire assumée, ça on pense à au président vénézuélien, Maduro, que seule la dictature avait pratiqué à ce jour comme moyen politique acceptable. Ici, l'illusion de la défense d'un peuple opprimé et massacré, donc on parle des Iraniens, est mise au service de la domination à tout prix des États-Unis et de la sécurité d'Israël. Qui peut croire un instant que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont pour objectif principal l'avènement de la démocratie en Iran? Signe de leur désintérêt, ils envoient le peuple iranien se faire massacrer par le régime, faute d'être prêt à envoyer des troupes au sol, seul moyen de renverser le régime. Sans oublier que jamais dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a plusieurs chercheurs qui l'ont dit ces derniers jours, une guerre destinée à instaurer la démocratie n'y est parvenue dans un pays de taille même moyenne. On veut nous imposer l'idée que cette guerre est illégale, certes, mais légitime. Illégale, contraire au droit international, mais légitime. Je défends l'idée, dit Villepin, qu'elle est illégale, illégitime, inefficace et de plus dangereuse. Pour nous, la fin ne justifie pas les moyens, au contraire, les moyens entachent la fin. Comment accepter le principe d'une guerre où ce sont toujours les autres qui paient? Le peuple iranien d'abord, mais aussi les peuples voisins, et bientôt nos propres concitoyens à travers les chocs économiques et sécuritaires. Cette guerre est un piège pour les démocraties, parce qu'elle prétend se faire au nom de la démocratie, mais se mène en vérité au service des empires. Personne ne regrettera Ali Khamenei, c'est aussi ce qu'a dit le président Macron hier soir, les peuples ne pleurent pas leurs bourreaux. Le régime iranien a opprimé son peuple pendant des décennies, réprimé, emprisonné, exécuté, il a nourri la déstabilisation régionale par une politique de proxy et de projection, contribuant à enchaîner les sociétés du Moyen-Orient à la violence et à la peur. Mais ce que produit l'intervention militaire américano-israélienne, c'est une multiplication des risques sécuritaires. Une violence accrue d'un régime aux abois, une diffusion de la violence par les milices, soit pro-gouvernementale, soit d'opposition, soit séparatiste, ou encore une dissémination de la violence terroriste dans la région et dans le monde. Une démocratie embrigadée ne saurait prendre racine dans un peuple farouchement indépendant. Il n'y a pas de démocratie sans droit. Or, cette guerre non seulement est contraire au droit international, mais elle est même menée contre le droit international. Comment ne pas mesurer l'absurdité des arguments des nouveaux bien-pensants qui disent que, puisqu'il y a des violations du droit international, le droit international n'existe plus. Parce que des meurtres sont commis, le droit cesserait de s'appliquer. Mais en réalité, le droit est pour Trump un signe de faiblesse et il ne respecte que la force. Trump, il a déclaré ça. Trump a déclaré noir sur blanc que le droit international ne s'appliquait pas à lui, il l'a dit, hein, et que sa seule limite, c'était sa propre morale. Le droit ne s'applique pas à Trump. Faut-il rappeler que les États-Unis sanctionnent des juges de la Cour pénale internationale, y compris français, sujet qu'on a évoqué ici déjà? Lorsque la règle recule, notre propre sécurité devient plus fragile. La règle n'est pas un luxe. Elle protège les peuples. Et c'est pourquoi elle protège aussi notre sécurité. Le droit international n'est pas une coquetterie, encore moins un héritage encombrant. C'est notre premier rempart. C'est ce qui empêche que le deux poids deux mesures généralisé, la loi du plus fort, finisse par s'appliquer au Groenland, à l'Europe de l'Est, ou même à l'intégrité du territoire français un jour. Monsieur Littlecat pose une question qui est intéressante. Mais du coup, le droit international empêche l'intervention, donc elle protège aussi les bourreaux des peuples. Il doit bien y avoir un juste milieu, nous dit Mr. Littlecat dans le chat. Il n'y a pas de démocratie sans décision collective. Pas davantage d'alliance. Or, les Européens semblent n'avoir été ni prévenus ni associés aux démarches qui ont conduit à la guerre. De même qu'ils sont mis à l'écart de la soi-disant paix en Ukraine. Nous endossons une dérive sur laquelle nous n'avons aucune prise. Et ça, c'est le deuxième volet de cette tribune de Villepin, c'est qu'il va dénoncer l'impuissance de l'Europe. Il va dire c'est pas normal. Il n'y a pas de démocratie sans une opinion éclairée par la raison. Or, cette guerre est une tentation pour les médias, car elle offre des mots tout faits pour les journaux, comme cette guerre préventive dont on se demande bien ce qu'elle pouvait et pourrait prévenir. Elle offre des images. On sait depuis la première guerre du Golfe que la guerre des missiles est télégénique. Elle capte l'attention de son public. Elle offre, comme toujours, l'illusion des solutions simples à des problèmes compliqués. Je vous lis pas toute la tribune, hein. Je ne suis pas Dominique de Villepin, mais je vous lis les passages qui me semblent les plus forts. Donc là, Dominique de Villepin, un peu plus loin, souligne les risques économiques pour les Européens et pour les Français. Hein, si ça vous intéresse, c'est dans l'IB ce matin, page 8. J'en arrive à cette conclusion effarante pour moi, dit Dominique de Villepin. À la question que peut aujourd'hui la France, que peut l'Europe, en Iran et au Moyen-Orient, la réponse est rien ou presque. Nous ne pouvons ni ne voulons peser. J'en tire deux actions indispensables. La première action est immédiate, c'est celle qui doit permettre d'éviter la catastrophe annoncée de cette guerre d'Iran, soulager le peuple iranien, renforcer les mécanismes de responsabilité. D'abord, la France doit protéger ses ressortissants, sécuriser ses emprises, anticiper les chocs économiques et énergétiques, c'est le minimum dû à nos... J'ai pas mis la suite. Je vais la chercher à nos patriotes quand la force des autres nous expose. C'est un peu ce que disait le président Macron hier soir en direct. Mais il va ici falloir aller au-delà et assumer notre nouvelle faiblesse et faire cause commune avec d'autres puissances affaiblies comme dans le monde et au Moyen-Orient. La deuxième action est existentielle. Nos armées ne sont pas en mesure de mener des actions autonomes, conséquentes et de haute intensité dans la durée, ce qui nous rend dépendants de nos alliés et d'abord des États-Unis. Nos réseaux de communication ne permettent pas d'assurer la souveraineté de nos données. Les réseaux de communication français et européens, en fait, qui dépendent, vous le savez, beaucoup des États-Unis notamment. Et la maîtrise satellitaire risque d'arriver dans une zone critique, nous rendant là aussi dépendants de la bienveillance américaine, voire d'entreprises privées. C'est pourquoi aujourd'hui, l'enjeu est de reconstruire la capacité d'action et d'initiative de la France. Nous devons devenir plus forts à notre tour, non pas pour manier la force contre les autres, mais pour la mettre au service du droit et de notre sécurité. La France, c'est la démocratie. Et c'est pour cela que les intérêts des peuples ne nous seront jamais étrangers. La France, c'est le droit international et le multilatéralisme. C'est pourquoi nous devons porter un projet de renaissance de la diplomatie globale et de l'ONU, au lieu de la déclarer morte, voire d'en faire une vieillerie dépassée par quelques responsables politiques français. Vous savez que c'est aussi le regard du président américain sur l'ONU. La France, c'est l'indépendance. Cela suppose de nouer un véritable pacte. Bon, c'est très chiracien, hein, ce discours, pour renvoyer à des hommes politiques du passé. C'est assez gaulliste aussi. Hein. Cela suppose de nouer un véritable pacte de souveraineté nationale pour redresser l'ensemble de nos capacités. Cela repose sur une cohésion sociale retrouvée et cela exige de la justice sociale. Ça ressemble de plus en plus à un programme pour une présidentielle. Cela repose sur un État en ordre de marche pour garantir et réguler les souverainetés essentielles des Français. Cela repose sur une ambition d'avenir fondée sur une économie compétitive, innovante et robuste. Vous avez compris le glissement, qui est assez intéressant, de Dominique de Villepin qui condamne l'opération américaine et israélienne contre l'Iran, et ça finit avec un embryon de programme pour la présidentielle de 2027. C'est une tribune, si ça vous intéresse, à lire dans Libération, ce mercredi 4 mars. Défécateur nous rappelle, salut Défécateur, que Trump avait déclaré l'ONU morte dès son discours à la tribune de l'ONU. Roms pose une question que tu dis naïve, je la trouve pas si naïve cette question. Question naïve, mais si les démocraties occidentales se mettent à violer le droit international, qu'est-ce qui empêcherait les dictatures de ne pas le faire ? Cyril, c'est génial, avec la multiplication des candidatures à droite et à gauche, on va avoir un second tour, Bardella, Mélenchon. Silver, je suis d'habitude assez d'accord avec ces prises de position, tu parles de Villepin, mais le principe de respecter le droit international pour des états dictatoriaux qui s'en foutent complètement, je suis pas convaincu. Ok.